Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 12, chapitre 2. Louis XII et l'Assemblée de Tours. François et Marguerite. Les lettres. Lefèvre. Son enseignement à l'université. Lefèvre et Farel se rencontrent. Hésitations et recherches de Farel. Premier réveil. Prophétie de Lefèvre. Il enseigne la justification par la foi. Objection. Désordre des collèges. Effet sur Farel. L'élection. Sanctification de la vie. L'un des jours de l'an 1510 ou peu après, le jeune Dauphinois arriva à Paris. La province avait fait de lui un ardent sectateur de la papauté. La capitale devait en faire autre chose. En France, ce n'était pas d'une petite ville, comme en Allemagne, que la réformation devait sortir. C'est de la métropole que partent toutes les impulsions qui ébranlent le peuple. Un concours de circonstances providentielles faisait de Paris, au commencement du XVIe siècle, un foyer d'où pouvait aisément s'échapper une étincelle de vie. Le jeune homme des environs de Gap, qui y arrivait alors, humble et ignoré, devait recevoir cette étincelle dans son cœur, et plusieurs autres avec lui. Louis XII, le père du peuple, venait de convoquer à Tours les représentants du clergé de France. Ce prince semble avoir devancé les temps de la Réformation, en sorte que, si cette grande révolution avait eu lieu sous son règne, la France entière fût peut-être devenue protestante. L'Assemblée de Tours avait déclaré que le roi avait le droit de faire la guerre au pape et d'exécuter les décrets du Concile de Bâle. Ces mesures étant l'objet de toutes les conversations dans les collèges, comme à la ville et à la cour, elles durent faire une vive impression sur l'esprit du jeune Farel. Deux enfants grandissaient alors à la cour de Louis XII. L'un était un jeune prince, d'une taille élevée, d'une figure remarquable, qui montrait peu de mesure dans son caractère et se jetait étourdiment partout où sa passion l'emportait, en sorte que le roi avait coutume de dire « ce gros garçon gâtera tout ». C'était François d'Angoulême, duc de Valois et cousin du roi. Boisy, son gouverneur, lui apprit cependant à honorer les lettres. Auprès de François était sa sœur Marguerite, plus âgée que lui de 2 ans, princesse de très grand esprit et fort habile, dit Brantôme, tant de son naturel que de son acquisitif. Aussi Louis XII n'avait-il rien épargné pour son instruction, et les gens les plus savants du royaume ne tardèrent pas à appeler Marguerite leur mécène. En effet, un cortège d'hommes illustres entourait déjà ces deux Valois. Guillaume Budet, qui a 23 ans, livré aux passions et surtout à la chasse, ne vivant plus qu'avec des oiseaux, des chevaux et des chiens, avait tout à coup tourné court, vendu son équipage et s'était mis à l'étude avec la même passion qu'il avait fait courir, entouré de sa meute, les campagnes et les forêts. Le médecin Cop, François Vatable, dont les docteurs juifs eux-mêmes admiraient les connaissances hébraïques. Jacques Tuzan, célèbre helléniste. D'autres lettrés encore, encouragés par l'évêque de Paris, Étienne Poncher, par Louis Rusé, lieutenant civil, et par François de Luynes, et déjà protégés par les deux jeunes Valois, résistaient aux attaques violentes de la Sorbonne qui regardait l'étude du grec et de l'hébreu comme la plus funeste hérésie. À Paris, comme en Allemagne et en Suisse, le rétablissement de la saine doctrine devait être précédé de la restauration des lettres. Mais les mains qui préparaient ainsi les matériaux ne devaient pas, en France, être celles qui élèveraient l'édifice. Entre tous ces docteurs, qui illustraient alors la capitale, on remarquait un homme de très petite taille, de chétive apparence et de basse origine, dont l'esprit, la science et la puissante parole avaient, pour tous ceux qui l'entendaient, un attrait indicible. Il se nommait Lefèvre et était né vers l'an 1455 à Étaples, petit endroit de la Picardie. Il n'avait reçu qu'une éducation grossière, barbare même, dit Théodore de Bèze. Mais son génie lui avait tenu lieu de tous les maîtres, et sa piété, sa science et la noblesse de son âme n'en brillaient que d'un plus grand éclat. Il avait beaucoup voyagé, et il paraît même que le désir d'étendre ses connaissances l'avait conduit en Asie et en Afrique. Dès l'an 1493, Lefèvre, docteur en théologie, professait à l'université de Paris. Il y occupa aussitôt une place éminente et fut le premier aux yeux d'Érasme. Lefèvre comprit qu'il avait une tâche à remplir. Quoique attaché aux pratiques de Rome, il se proposa de combattre la barbarie qui régnait dans l'université. Il se mit à enseigner les sciences philosophiques avec une clarté jusqu'alors inconnue. Il s'efforçait de ranimer l'étude des langues et de l'antiquité savante. Il allait plus loin. Il comprenait que, quand il s'agit d'une œuvre de régénération, la philosophie et les lettres sont insuffisantes. Sortant donc de la scolastique, qui depuis tant de siècles avait seule occupé l'école, il revenait à la Bible et rétablissait dans la chrétienté l'étude des saintes écritures et les sciences évangéliques. Ce n'était pas à des recherches arides qu'il se livrait. Il allait au cœur de la Bible. Son éloquence, sa franchise, son amabilité captivaient les cœurs. Grave et onctueux dans la chair, il était dans ses rapports avec ses élèves d'une douce familiarité. « Il m'aime extrêmement, » écrivait l'un d'eux, Glaréan, à son ami Zwingle. Plein de candeur et de bonté, il chante, il joue, il dispute avec moi, et souvent il rit de la folie de ce monde. Aussi un grand nombre de disciples de toutes nations se réunissaient-ils à ses pieds. Cet homme si savant était en même temps soumis avec la simplicité d'un enfant à toutes les ordonnances de l'Église. Il passait autant de temps dans les temples que dans son cabinet. En sorte qu'un rapport intime semblait devoir unir le vieux docteur de la Picardie et le jeune écolier du Dauphiné. Quand deux natures si semblables se rencontrent, fût-ce même dans l'immense enceinte d'une capitale, elles tendent à se rapprocher. Dans ses pieux pèlerinages, le jeune Farel remarqua bientôt un homme âgé qui le frappa par sa dévotion. Il se prosternait devant les images et, demeurant longuement à genoux, il priait avec ferveur et disait dévotement ses heures. « Jamais, dit Farel, je n'avais vu chanteur de messe qui, en plus grande révérence, la chanta. » C'était Lefèvre. Guillaume Farel désira aussitôt se rapprocher de lui. Il ne put contenir sa joie quand il vit cet homme si célèbre l'accueillir avec bonté. Guillaume avait trouvé ce qu'il était venu chercher dans la capitale. Dès lors, son plus grand bonheur fut de s'entretenir avec le docteur d'Étaples, de l'entendre, de suivre ses admirables enseignements, de se prosterner dévotement avec lui devant les mêmes images. Souvent, on voyait le vieux Lefèvre et son jeune disciple orner avec soin de fleurs une figure de la Vierge et murmurer seuls, ensemble, loin de tout Paris, loin des écoliers et des docteurs, les ferventes prières qu'ils adressaient à Marie. L'attachement de Farel pour Lefèvre fut remarqué de plusieurs. Le respect que l'on portait au vieux docteur rejaillit sur son jeune disciple. Cette amitié illustre sortit le Dauphinois de son obscurité. Il acquit bientôt un nom par son zèle, et plusieurs gens riches et dévots de Paris lui confièrent diverses sommes destinées à l'entretien des étudiants pauvres. Il s'écoula quelque temps avant que Lefèvre et son disciple parvinssent à une vue claire de la vérité. Ce n'était pas l'espoir de quelques riches bénéfices, ou le penchant à une vie dissolue qui attachait Farel au pape. Ces liens vulgaires n'étaient pas faits pour une telle âme. Le pape était pour lui le chef visible de l'Église, une sorte de Dieu, dont les commandements sauvaient les âmes. entendait-il parler contre ce pontife tant vénéré, il grinçait les dents, comme un loup furieux. Il eût voulu que la foudre frappât le coupable, en sorte qu'il en fût, du tout, abattu et ruiné. « Je crois, disait-il à la croix, au pèlerinage, aux images, aux vœux, aux ossements, ce que le prêtre tient en ses mains, met en la boîte, enferme, mange et donne à manger, est mon seul vrai Dieu. Et pour moi il n'y en a point d'autre que lui, ni au ciel, ni sur la terre. Satan, dit-il encore, avait logé le pape, la papauté, et tout ce qui est de lui, en mon cœur, de sorte que le pape même n'en avait pas tant en soi. Aussi, plus Farel semblait rechercher Dieu, plus sa piété languissait, et la superstition croissait dans son âme. Tout allait de mal en pis. Il a décrit lui-même cet état avec beaucoup d'énergie. « Oh, que j'ai horreur de moi et de mes fautes, quand j'y pense !» dit-il. « Et quelle œuvre de Dieu, grande et admirable, que l'homme ait pu être sorti de tel gouffre !» Mais ce ne fut que peu à peu qu'il en sortit. Il avait lu d'abord les auteurs profanes. Sa piété, n'y ayant trouvé aucune nourriture, il s'était mis à méditer la vie des saints. De fou qu'il était, ses vies l'avaient fait devenir plus fou encore. Il s'attacha alors à plusieurs docteurs du siècle, mais venu vers eux malheureux, il en sortit plus misérable. Il se mit enfin à étudier les anciens philosophes et prétendit apprendre d'Aristote à être chrétien. Son espérance fut encore déçue. Les livres, les images, les reliques, Aristote, Marie et les saints, tout était inutile. Cette âme ardente passait d'une sagesse humaine à une autre sagesse humaine, sans jamais trouver de quoi apaiser la faim qui la consumait. Cependant, le pape souffrant qu'on appela Sainte Bible, les écrits du Vieux et du Nouveau Testament, Farel se mit à les lire, comme autrefois Luther dans le cloître d'Erfurt. Il fut fort ébahi, en voyant que tout était autrement sur la terre que ne le porte la Sainte Écriture. Peut-être allait-il arriver à la vérité, mais tout à coup un redoublement de ténèbres vint le précipiter dans un nouvel abîme. « Satan soudain survint, dit-il, afin qu'il ne perdît sa possession, et besogna en moi selon sa coutume. » Une lutte terrible entre la parole de Dieu et la parole de l'Église s'éleva alors dans son cœur. Rencontrait-il quelques passages de l'Écriture opposés aux pratiques de Rome? Il baissait les yeux, rougissait et n'osait croire ce qu'il lisait. « Ah ! Disait-il, craignant d'arrêter ses regards sur sa Bible, je n'entends pas bien de telles choses. Il me faut donner à ces Écritures un autre sens que celui qu'elles me semblent avoir. » Il faut que je m'en tienne à l'intelligence de l'Église et voire du pape. » Un jour qu'il lisait la Bible, un docteur étant survenu, le reprit fortement. « Nul, lui dit-il, ne doit lire la Sainte Écriture avant d'avoir appris la philosophie et fait son cours S.A.R. » C'était là une préparation que les apôtres n'avaient pas demandée, mais Farel le crut. « J'étais, dit-il, le plus malheureux de tous les hommes. » fermant les yeux pour ne pas voir. Dès lors, il y eut dans le jeune dauphinois une recrudescence de ferveur romaine. Les légendes des saints exaltaient son imagination. Plus les règles monastiques étaient sévères, plus il se sentait de penchant pour elles. Des chartreux habitaient de sombres cellules au milieu des bois. Il les visitait avec respect et se joignait à leurs abstinences. « Je m'employais entièrement, jour et nuit, pour servir de diable, dit-il, selon l'homme de péché, le pape. J'avais mon panthéon dans mon cœur, et tant d'avocats, tant de sauveurs, tant de dieux, que je pouvais bien être tenu pour un registre papal. » Les ténèbres ne pouvaient devenir plus épaisses. L'étoile du matin devait bientôt se lever, et c'était à la parole de Lefèvre qu'elle devait paraître. Il y avait déjà dans le docteur d'Étaples quelques rayons de lumière. Un sentiment intime lui disait que l'Église ne pouvait demeurer dans l'état où elle était alors. Et souvent, au moment même où il revenait de chanter la messe, ou de se lever de devant quelque image, le vieillard se tournait vers son jeune disciple et lui saisissant la main, lui disait d'un ton grave « Mon cher Guillaume, Dieu renouvellera le monde, et vous le verrez. » Farel ne comprenait pas parfaitement ces paroles. Cependant, Lefèvre ne s'en tint pas à ces mots mystérieux. Un grand changement qui s'opéra alors chez lui devait en produire un semblable chez son disciple. Le vieux docteur s'occupait d'un vaste travail. Il recueillait avec soin les légendes des saints et des martyrs et les rangeait selon l'ordre où leurs noms se trouvent dans le calendrier. Déjà 2 mois étaient imprimés, quand une de ces lueurs qui viennent d'en haut éclaira tout à coup son âme. Il ne put résister au dégoût que de puériles superstitions font naître dans un cœur chrétien. La grandeur de la parole de Dieu lui fit sentir la misère de ses fables. Elles ne lui parurent plus que du soufre propre à allumer le feu de l'idolâtrie. Il abandonna son travail, et jetant loin de lui ses légendes, il se tourna avec amour vers la Sainte Écriture. Ce moment où Lefèvre, quittant les merveilleux récits des saints, mit la main sur la parole de Dieu, commence une ère nouvelle en France, et est le principe de la Réformation. En effet, Lefèvre, revenu des fables du bréviaire, se mit à étudier les épîtres de saint Paul. La lumière crut rapidement dans son cœur, et il communiqua aussitôt à ses disciples cette connaissance de la vérité que nous trouvons dans ses commentaires. C'étaient des doctrines étranges pour l'école et pour le siècle, que celles que l'on entendait alors dans Paris et que la presse répandait dans le monde chrétien. On comprend que les jeunes disciples qui les écoutaient en fussent frappés, émus, changés, et qu'ainsi, déjà avant l'an 1512, se prépara pour la France l'aurore d'un nouveau jour. La doctrine de la justification par la foi, qui renversait d'un seul coup les subtilités des scolastiques et les pratiques de la papauté, était hautement annoncée au sein de la Sorbonne. « C'est Dieu seul, disait le docteur, et les voûtes de l'université devaient être étonnées de répéter d'aussi étranges paroles. C'est Dieu seul qui, par sa grâce, par la foi, justifie pour la vie éternelle. Il y a une justice des œuvres, il y a une justice de la grâce. L'une vient de l'homme, l'autre vient de Dieu. L'une est terrestre et passagère, l'autre est divine et éternelle. L'une est l'ombre et le signe, l'autre est la lumière et la vérité. L'une fait connaître le péché pour fuir la mort, l'autre fait connaître la grâce pour acquérir la vie. Quoi donc, disait-on, à l'ouïe de ces enseignements qui contredisaient ceux de 4 siècles, y eut-il jamais un seul homme justifié sans les œuvres ? Un seul, répliquait Lefèvre. Il en est d'innombrables. Combien d'entre les gens de mauvaise vie qui ont demandé avec ardeur la grâce du baptême, n'ayant que la foi seule en Christ, et qui, s'ils sont morts aussitôt après, sont entrés dans la vie des bienheureux, sans les œuvres. Si donc nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, c'est en vain que nous les ferions, répondaient quelques-uns. Le docteur de Paris répliquait, et peut-être les autres réformateurs n'eussent-ils pas entièrement approuvé cette réponse. Certes non, ce n'est pas en vain. Si je tiens un miroir tourné vers l'éclat du soleil, il en reçoit l'image. Plus on le polit et on le nettoie, plus l'image du soleil y brille. Mais si on le laisse se ternir, cet éclat du soleil se perd. Il en est de même de la justification dans ceux qui mènent une vie impure. Lefèvre, dans ce passage, comme saint Augustin dans plusieurs, ne distingue peut-être pas assez la justification et la sanctification. Le docteur d'Étaples rappelle assez l'évêque d'Hippone. Ceux qui mènent une vie impure n'ont jamais eu la justification, et par conséquent, ils ne peuvent pas la perdre. Mais peut-être Lefèvre a-t-il voulu dire que le chrétien, quand il tombe dans quelque faute, perd le sentiment de son salut, et non son salut même. Alors il n'y a rien à objecter à sa doctrine. Ainsi une vie nouvelle et un enseignement nouveau avaient pénétré dans l'université de Paris. La doctrine de la foi qu'avaient prêché jadis dans les Gaules, les Potins et les Irénées y retentissait de nouveau. Dès lors, il y eut deux partis et deux peuples dans cette grande école de la chrétienté. Les leçons de Lefèvre, le zèle de ses disciples, formaient le contraste le plus frappant avec l'enseignement scolastique de la plupart des docteurs et la vie légère et folâtre de la plupart des étudiants. On s'occupait bien plus, dans les collèges, à apprendre des rôles de comédie, à se couvrir de vêtements bizarres et à jouer des farces sur les tréteaux, qu'à s'instruire dans les oracles de Dieu. Souvent même, ces farces attaquaient l'honneur des grands, des princes, du roi lui-même. Le Parlement intervint, vers le temps dont nous parlons. Il appela devant lui les principaux de plusieurs collèges et défendit à ses maîtres indulgents de laisser jouer de telles comédies dans leur maison. Mais une diversion plus puissante que les arrêts du Parlement venait tout à coup corriger ces désordres. On enseignait Jésus-Christ. La rumeur était grande sur les bancs de l'université, et l'on commençait presque à s'y occuper autant des doctrines évangéliques que des subtilités de l'école ou des comédies. Plusieurs de ceux dont la vie était le moins irréprochable tenaient cependant pour les œuvres, et comprenant que la doctrine de la foi condamnait leur vie, ils prétendaient que saint Jacques était opposé à saint Paul. Lefèvre, décidé à défendre le trésor qu'il avait découvert, montrait l'accord des deux apôtres. Saint Jacques ne dit-il pas, chapitre 1er, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut? Or, qui nie que la justification soit le don parfait, la grâce excellente? Si nous voyons un homme se mouvoir, la respiration que nous remarquons en lui est pour nous le signe de la vie. Ainsi les œuvres sont nécessaires, mais seulement comme des signes d'une foi vivante que la justification accompagne. Sont-ce des collyres, des purifications qui illuminent l'œil? Non, c'est la vertu du soleil. Eh bien, ces purifications et ces collyres, ce sont nos œuvres. Le rayon seul que le soleil darde d'en haut est la justification même. Farel écoutait ces enseignements avec avidité. Cette parole d'un salut par grâce eut aussitôt pour lui un attrait indicible. Toute objection tomba, toute lutte cessa. À peine Lefèvre eut-il fait entendre cette doctrine que Farel l'embrassa avec toute l'ardeur de son âme. Il avait soutenu assez de travaux et de combats pour savoir qu'il ne pouvait se sauver lui-même. Aussi, dès qu'il vit dans la parole que Dieu sauve gratuitement, il le crut. Lefèvre, dit-il, me retira de la fausse opinion du mérite et m'enseigna que tout venait de la grâce, ce que je crus sitôt qu'il me fut dit. Ainsi fut amené à la foi, par une conversion prompte et décisive, comme celle de saint Paul, ce Farel qui, comme le dit Théodore de Bèze, n'étant épouvanté ni par les menaces, ni par les injures, ni par les coups, gagna à Jésus-Christ Montbéliard, Neuchâtel, Lausanne, Aigle et enfin Genève. Cependant, Lefèvre, poursuivant ses enseignements, et se plaisant, comme Luther, à employer des contrastes et des paradoxes qui couvrent de grandes vérités, exaltait les grandeurs du mystère de la rédemption. « Échange ineffable, s'écriait-il, l'innocence est condamnée et le coupable est absous. La bénédiction est maudite, et celui qui était maudit est béni. La vie meurt, et la mort reçoit la vie. La gloire est couverte de confusion. Et celui qui était confus est couvert de gloire. » Le pieux docteur, pénétrant même plus avant, reconnaissait que c'est de la souveraineté de l'amour de Dieu que tout salut émane. « Ceux qui sont sauvés, disait-il, le sont par l'élection, par la grâce, par la volonté de Dieu, et non par la leur. Notre élection, notre volonté, notre œuvre sont sans efficace. L'élection seule de Dieu est très puissante. Quand nous nous convertissons, ce n'est pas notre conversion qui nous rend élus de Dieu, mais c'est la grâce, la volonté, l'élection de Dieu qui nous convertissent. Mais Lefèvre ne s'arrêtait pas à des doctrines. S'il rendait à Dieu la gloire, il demandait à l'homme l'obéissance, et il pressait les obligations qui découlent des grands privilèges du chrétien. Si tu es de l'Église de Christ, tu es du corps de Christ, disait-il. Et si tu es du corps de Christ, tu es rempli de la divinité, car la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Oh, si les hommes pouvaient comprendre ce privilège, comme ils se maintiendraient purs, chastes et saints, et comme ils estimeraient toute la gloire du monde une ignominie, en comparaison de cette gloire intérieure qui est cachée aux yeux de la chair. Lefèvre comprenait que la charge de docteur de la parole est une haute magistrature. Il l'exerçait avec une inébranlable fidélité. La corruption du temps, et en particulier celle des ecclésiastiques, excitait son indignation et devenait le sujet de leçons sévères. « Qu'il est honteux, disait-il, de voir un évêque solliciter les gens à boire avec lui, ne s'appliquer qu'au jeu, manier sans cesse les dés et le cornet, ne s'occuper que d'oiseaux, de chiens, chasser sans cesse, pousser des cris après les corneilles et les bêtes fauves, entrer dans des maisons de débauche. Ô homme digne d'un plus grand supplice que Sardanapale lui-même !»